les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Une émission pleine de réflexions sur la vie et sur l'identité. Retour à la Réunion avec l'essayiste et artiste Patrick Singhaini, qui a côtoyé Aimé Césaire et écrit un livre avec Edgar Morin. Il a choisi de nous emmener voir un arbre gigantesque, un emblème de la Réunion et de sa pensée. Reportage à Saint-Pierre, à ne pas manquer dans la troisième partie. C'est un philosophe accessible et généreux, c'est le retour de Raphaël Antoven dans la librairie francophone. Il publie un livre destiné aux adolescents dont les adultes peuvent largement s'inspirer. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec
Merci
nous.
Merci de votre invitation.
Philosopher avec des enfants et avec des ados, est-ce plus difficile ou plus facile qu'avec les grands?
Ça dépend de ce qu'on appelle un adolescent. J'ai tendance à penser que l'adolescence n'a pas d'âge, que c'est plutôt une disposition du caractère qui consiste à croire qu'il suffit de dire non pour exister.
Oui.
Et ça, je suis désolé, ça transcende ce qu'on appelle l'adolescence. Je connais des tas de gens qui font ça et qui n'ont ni 13 ni 17 ans.
Et c'est ça.
Voilà.
Donc votre livre s'adresse à tout le monde.
Le destinataire, c'est l'adolescence, si vous voulez, comme concept, pas comme période de la vie.
Et vous êtes quel genre de concept?
Moi, je suis un adolescent forcené. J'ai tous les vices que je dénonce.
Raphaël Antoven est dans la librairie francophone cette semaine. Et puis nous recevrons l'auteur québécoise Karine Rosso pour un roman féministe autour de la figure de la regrettée Nelly Arcan. Elle est dans notre studio à Sherbrooke au Canada.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. Pour la Suisse, c'est Claire Renaud depuis Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Atmosphère et vous avez la grande forme, paraît-il.
Oui, oui, il y a un magnifique soleil ici.
Génial. Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Puteaux, vous, dans la librairie Lamandier, oui. À côté de la Défense, et vous représentez la France. Ça rime. En Belgique, on retrouve Déborah Damblon, libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
En pleine forme aussi, c'est l'automne.
Toujours.
Hein toujours. Au Canada, c'est l'automne aussi qui s'annonce bien avec Josiane Letourneau de la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
En forme aussi?
Ben oui, les arbres sont magnifiques.
Allez, merci d'être avec nous tous les quatre. On ouvre tout de suite cette émission avec la suite de notre séquence livre de poche écourtée la semaine passée en raison de cette spéciale à La Réunion que vous pouvez bien sûr retrouver en ligne sur internet et en balado-diffusion. Le 4 novembre seront décernés les prix Goncourt et Renaudot. David Diop, grand favori de la saison 2018, avait décroché lui le prix Goncourt des lycéens et le prix Kuruma pour son roman Frères d'âme. Un livre qui vient tout juste de sortir en poche chez Point. Voici en 4 minutes l'histoire de cet ouvrage et des tirailleurs sénégalais, le thème de ce livre, avec une petite surprise signée d'un grand cinéaste. Écoutez bien. Et bonjour David Diop.
Bonjour.
Je vous laisse faire un rapide rappel historique. Qui sont les tirailleurs sénégalais?
Alors, les tirailleurs sénégalais, comme leur nom ne l'indique pas, viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce sont donc des soldats. Alors, il y a des tirailleurs sénégalais qui sont des tirailleurs professionnels. Et puis, au moment où on a besoin de tirailleurs, eh bien, on va chercher des gens dans la société civile. Et donc, ces tirailleurs sont venus en France pour aider la mère patrie.
Voilà, c'est ça. Alors dans votre roman, court, efficace, poétique, il y a ce jeune personnage, Alpha, qui est dans le dilemme et la culpabilité. Il a refusé d'abréger les souffrances de son ami intime, de son compagnon de route. Celui qu'il considérait comme ça, comme son frère, est mort dans d'atroces souffrances sur le front.
Oui, voilà, le roman s'ouvre sur un sentiment de culpabilité très fort, éprouvé par Alpha Ndiaye, qui est le narrateur. Et il n'a pas, malgré les 3 supplications de Madame Badiop, accédé à son désir de mourir par sa main pour abréger ses souffrances. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Alpha Ndiaye tombe un peu dans la folie.
Ouais.
et devient un combattant qui fait sa propre guerre.
Oui, il va en fait le venger en coupant les mains des soldats ennemis, mains qu'il rapporte dans la tranchée. C'est l'extrême violence, ça. Hein. C'est tellement violent que les gradés eux-mêmes sont choqués. Ils veulent l'écarter carrément du champ de bataille, car sur le front, on lui dit qu'on ne veut pas de fous furieux. En fait, on ne veut que de la folie passagère.
Oui, j'ai voulu montrer un personnage qui allait au-delà de ce qu'on demande à tout soldat, qui est de tuer le maximum d'ennemis. Mais à un certain point, ça effraie. Ça effraie parce que on substitue à une guerre civilisée, entre guillemets, mais quand même une guerre où on peut recevoir des centaines d'obus sur quelques secondes, une guerre personnelle. Une guerre, en fait, que mène ce personnage qui ramène finalement la guerre à hauteur d'homme, paradoxalement. Ouais.
Nous allons lire justement, tiens, un extrait de votre livre, David Diop. C'est le réalisateur Jean-Jacques Hano qui a accepté cette lecture, qui est face à vous, c'est une surprise. Il est ravi, David. Jean-Jacques, votre premier film, c'était La Victoire en chantant. Et c'est un film qui évoquait notamment les tirailleurs sénégalais.
Bien entendu, et les recrutements forcés sur le marché. J'ai fait un véritable recrutement à l'époque au marché de Niofouin, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et les acheteurs qui étaient venus des villages voisins ont vraiment cru qu'ils étaient enrôlés pour l'armée. Et j'ai tourné le film dans les années 70.
Voilà, Oscar du meilleur film étranger quand même en 1977. C'est votre premier film, vous décrochez un Oscar. Incroyable. Voici donc cette lecture. Lecture d'un texte de David Diop sur la musique du film, hein, on s'en est pas privé Jean-Jacques, la musique du film La Victoire en chantant.
Personne ne sait ce que je pense, je suis libre de penser ce que je veux. Ce que je pense, c'est qu'on veut que je ne pense pas. L'impensable est caché derrière les mots du capitaine. La France du capitaine a besoin que nous fassions les sauvages quand ça l'arrange. Elle a besoin que nous soyons sauvages, parce que les ennemis ont peur de nos coupes-coupes. Je sais, j'ai compris, ce n'est pas plus compliqué que ça. La France du capitaine a besoin de notre sauvagerie. Et, comme nous sommes obéissants, moi et les autres, nous jouons les sauvages, nous tranchons les chers ennemis, nous estropions, nous décapitons, nous éventrons. La seule différence entre mes camarades, les tout-couleurs et les sévères, les Bambara et les Malinkés, les Soussou, les Aoussa, les Mossi, les Marka, les Soninké, les Sénoufo, les Bobo et les autres Boulof, la seule différence entre eux et moi, c'est que je suis devenu sauvage, par réflexion.
Le roman de David Diop, Frères d'âme, sur la violence de la guerre des tranchées et l'histoire des tirailleurs sénégalais, est paru en poche chez Point. Et nous évoquerons les tirailleurs antillais et réunionnais dans un lieu qui leur rend hommage, sur l'île de la Réunion, où nous irons tout à l'heure.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Karine Rosso.
Bonjour.
Vous publiez un roman étonnant qui tourne autour de la figure de Nelly Arcan, célèbre auteure décédée il y a 10 ans, auteure canadienne. Elle se suicide à l'âge de 36 ans. Elle a incarné brièvement le combat des femmes face à la société du paraître. Et votre personnage, qui revient d'Amérique latine, qui est québécoise elle aussi, se pose elle-même des questions sur ce système. Qu'est-ce qui déraille dans notre société, Karine?
Cette course à la performance, l'obsession du paraître, l'obligation d'être dans la norme, hein, d'avoir un corps conforme, ce sont toutes des choses auxquelles les femmes sont confrontées. Et Nelly Arcan parlait de ça dans ses livres, dans ses romans. Mais je dirais que au-delà donc de la condition des femmes, il y a beaucoup question de la condition féminine dans le roman, mais au-delà de la condition des femmes, c'est vraiment cette course à la performance, je pense que qu'on soit homme ou femme, on la sent. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, justement, là, qu'on parle du faux-semblant ou de l'obsession du paraître. Il y a quand même quelque chose qui est généralisé et qui est quand même un peu malade dans notre société, en fait.
Et dans Mon ennemi, Nelly, votre roman, il est question de l'industrialisation de la beauté. Ces femmes qui doivent s'exhiber. La sobriété, dites-vous, étant réservée aux hommes. Tout pousse les femmes à entrer dans un jeu de la séduction, c'est ça?
Oui, et en fait, ça n'a pas toujours été le cas. C'est ça qu'elle remarque, cette narratrice-là, c'est qu'elle dit, bon, les hommes ont déjà porté des talons, hein, ils se sont étirés les lèvres avec des objets sacrés, ils se sont maquillés, ils se maquillent encore dans plusieurs coins du monde. Mais, en fait, oui, on est dans un système maintenant où la sobriété est synonyme de masculinité, en Occident, du moins. C'est elle revient d'Amérique latine, et donc, en Amérique latine, elle a vu d'autres choses, elle a vu des choses différentes, mais elle est confrontée donc à ce système-là, en fait, très binaire, hein, où en fait, c'est aux femmes de s'exhiber. Et Nelly Arcand, évidemment, parlait beaucoup de ça, et elle en était victime à la fois.
Oui, elle nous en avait parlé dans cette émission, d'ailleurs. Depuis nos studios de Sherbrooke, studio de Radio-Canada, où vous êtes en ce moment, car vous êtes enseignante, Karine Rosso, vous avez choisi la BO de votre roman, la bande originale du livre, un peu comme dans un film, et vous avez choisi le pianiste Philip Glass avec Morning Passages. On écoute un extrait et vous nous expliquez. La musique inquiétante, sublime aussi de Philip Glass. Pourquoi ce titre, Karine Rosso?
En fait, bon, tout simplement parce que c'est, je pense, la musique que j'écoutais le plus en écrivant le livre. Il y a même une amie qui a reconnu le rythme de Philip Glass en lisant, mes phrases. Elle disait, est-ce que t'écoutais du Philip Glass en écrivant? Parce qu'elle trouvait que ça se sentait dans l'écriture, donc j'en écrivais beaucoup. Mais bon, Philip Glass a aussi fait la bande originale du film Les Heures, hein, The Hours, qui est basé sur la vie et sur l'œuvre de Virginia Woolf. Et il y a évidemment plusieurs parallèles à faire parce que si vous dites c'est une musique inquiétante, oui, on sent comme une espèce de tension dans la répétition, et cette tension-là dans la répétition est très présente dans la vie des femmes. Mmh. Et Woolf l'avait bien vu, évidemment, l'avait écrit, et on sent cette même tension dans l'écriture de Nelly Arcand, et j'ai voulu la retrouver moi aussi, cette tension-là.
Et ça colle bien finalement sur votre voix, cette musique, je trouve.
Ah, oui, peut-être.
Bon, allez, on va aller voir du côté de nos libraires. Les quatre ont lu votre roman, Karine Rosso. On va commencer avec deux d'entre eux, la France ou la Suisse. Qui préférez-vous, tiens, Karine?
Allons-y avec la Suisse.
Allons-y avec la Suisse. Claire Renaud, c'est à vous.
Oui, alors pour moi, c'est une lecture qui est une invitation à lire Nelly Arcand, ou à la relire, et donne en tout cas envie de la lire et d'une certaine manière la réhabilite. Et puis ce duo entre la narratrice et Nelly est une réussite, parce qu'on est littéralement entraîné dans leur fusion, ce qui rend le texte très intense. Et quand on referme ce livre, on se retrouve face à nos carcans et préjugés, et on n'a qu'une seule envie, c'est de s'en défaire.
La vie d'un homme, à présent, avec Thomas Auxerre, pour la France.
Oui, alors moi, Emmanuel, en général, je ne suis pas un grand fan d'autofiction, habituellement. Mais alors là, j'ai été conquis. L'écriture est belle, les personnages sont habités, le propos est intelligent. On ne sait plus vraiment ce qui touche au réel ou à votre imaginaire, et ça, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un livre grâce auquel on s'interroge et qui donne finalement envie de découvrir ou de relire Nelly Arcand.
Ah, ben voilà. Voyez, vous avez séduit déjà deux de nos libraires, Karine. Tout va bien. Bon, vous vous interrogez sur le rapport aux hommes, Karine Rosso. C'est très militant, ce livre-là, car vous dénoncez l'attitude des hommes au Québec, comme en Amérique latine, mais de façon différente. Vous expliquez qu'au Québec, les hommes sont trop distants, et en Amérique latine, ils sont trop entreprenants. Ça va jamais, quoi.
Ben en fait, c'est surtout le petit copain, hein, le chum de la narratrice qui dit ça. Lui, il est argentin, il vient d'arriver au Québec, et évidemment, il va comparer la situation des femmes, la situation des hommes. Plus que les hommes, tu vous dites les hommes sont inadéquats, j'ai l'impression au contraire que le livre dit que les femmes sont inadéquates, hein, elles ne parviennent jamais finalement à faire ce qu'on attend d'elles et à remplir leur rôle parfaitement.
Moi, j'ai lu l'inverse, c'est drôle. Dans votre livre, j'ai lu totalement l'inverse. Allez, les deux autres libraires, avec la Belgique et le Canada, commençons par le Canada, avec pas très loin de vous, à Montréal, Josiane Letourneau.
Eh bien, votre livre, Karine Rosso, nous rappelle, 10 ans après sa mort, l'accueil qui a été fait à l'œuvre et à la personne médiatique de Nelly Arcand. Et je ne crois pas avoir lu au Québec Un roman qui démontre d'une aussi intelligente façon le paradoxe de l'image de la femme intellectuelle dans sa difficulté de représentation publique. Vous avez brillamment réussi à vous approprier dans le meilleur sens possible Nelly Arcand, à lui redonner vie et voix à travers votre narratrice. Et en fait, c'est tellement bien fait que je suis désarmée et bluffée par votre livre.
Carrément. Dites donc.
Merci pour votre commentaire, Josiane.
En tout cas, c'est incroyable, ces commentaires. Je suis très étonné pour tout vous dire, Karine Rosso, parce que quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, tiens, c'est un livre qui va diviser. Moi-même, il m'a un peu divisé parce que c'est pas si simple. Parfois, on s'y perd et vous perdez un peu le lecteur avec des passages comme ça, un petit peu embués, un petit peu enfumés, sans faire d'allusion, mais il y a des moments de drogue aussi. Et on se dit, mais quel est le but oui. de ce livre au final? Et moi, je l'ai pas trouvé, l'hommage à Nelly Arcand, justement.
Ah oui, vous ne l'avez pas trouvé. Pourtant, je pense qu'il est là. Je pense qu'elle accuse Nelly Arcand, la narratrice, d'un mal qui est à l'intérieur d'elle.
Oui, c'est ça.
Et
ouais.
évidemment, elle se trompe de cible. Je ouais. pense que ça devient quand même assez clair à la fin du roman.
Elle se fait mal à elle-même. Oui, c'est ça. Elle se fait mal à elle-même.
Mais je trouve ça intéressant que vous dites qu'on se perd, parce qu'en fait, c'est ce qui arrive à la narratrice, c'est qu'elle se perd, ouais, cette narratrice-là. Ouais.
Elle bon, je me suis perdu avec elle, alors. C'est logique, finalement.
Dans les mots de Nelly Arcand, ben oui, peut-être, oui.
Bon, la Belgique, on va conclure. C'est le mot de la fin pour Déborah Damblon. Allez-y, tranchez, avez-vous apprécié cet ouvrage, Mon ennemi Nelly, de Karine Rosso?
Mais oui, Emmanuel, moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit. Il y a aussi quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, Madame Rosso, c'est votre maîtrise de la narration et la finesse du rythme, cette façon que vous avez de nous emmener délicatement avec vous. Et puis, mais je trouve quoi de plus beau pour Nelly que de se transformer en personnage de roman. Et vous êtes vraiment tourné vers elle, tourné vers l'autre, avec beaucoup de générosité. Et vous permettez à ceux qui, comme moi, mais je ne suis pas la seule, ne la connaissent pas, d'avoir envie de découvrir qui est cette autrice, peut-être dérangeante, qui se cache derrière la femme de papier.
Voilà, vous avez séduit tous nos libraires. Tout va bien pour vous, Karine, avec Raphaël Antoven qui veut vous dire un mot.
Oui, non, c'est un souvenir. J'ai reçu Nelly Arcand à la radio sur France Culture, il y a oui, cela plus aussi. De 10 ans par définition, oui. C'était en 2008. C'était une semaine dont le prétexte, puisque les titres étaient des prétextes, était de la pornographie. Et on avait reçu Michaela Marzano, Ovidie et Nelly Arcand. Et j'avais à cette occasion découvert un écrivain absolument extraordinaire, dont les phrases faisaient rêver. Il y avait quelque chose de joycien dans ces phrases comme ça, sans ponctuation.
Ah oui,
servi par une personnalité tellement triste, je me souviens.
C'est vrai,
c'était inoubliable.
Aussi, ouais. Vous l'avez connue, Nelly Arcand, Karine Rosso?
Non, je ne l'ai pas connue, mais non, je ne l'ai jamais rencontrée. Par contre, toutes les personnes qui me disent l'avoir rencontrée me disent la même chose. Donc, qui avait cette tristesse, qui avait ce mal de vivre qui transparaissait quand
ouais,
même.
Je confirme.
Une grande, grande lucidité dans l'écriture, mais une grande. Oui, je ne sais pas si une amertume, enfin quelque chose qui se dégageait d'elle, qui était très triste, oui.
Merci beaucoup, Karine Rosso. Mon ennemi Nelly
Merci
est paru aux éditions Amac. Merci à vous et bon week-end au Québec. Dans un instant, on se retrouve avec Raphaël Antoven, qui est philosophe avec les adolescents, et notre grand entretien reportage dans les rues de Saint-Pierre à La Réunion avec l'essayiste Patrick Singaigny, qui vous fera découvrir un arbre incroyable. Avant cela, on va vous faire plaisir, Karine Rosso, je l'espère, avec le tout nouveau titre des Cowboys Fringants qui chantent l'Amérique avec un très beau texte. C'est tout nouveau. Écoutez bien les paroles. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les ex
son époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Stop d'autoroute, poigné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
C'était le groupe Les Cowboys Fringants avec L'Amérique pleure.
Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et nous allons philosopher, on adore ça, avec Raphaël Enthoven, qui est dans cette émission pour son livre Imaginé, illustré par le peintre Chen Jianghong.
Très bien prononcé.
C'est
exactement prononcé, c'est l'illustrateur de l'école des loisirs, enfin, entre autres, et qui fait par ailleurs une carrière de peintre abstrait mondial. Et c'est un type formidable.
Bon, une série de textes philosophiques pour les ados, donc en une minute, vous arrivez à expliquer certains sujets fondamentaux de la vie et de la pensée. Vous expliquez par exemple la politesse avec l'image des porcs épics.
Oui, c'est une histoire que raconte Schopenhauer. Schopenhauer parle des porcs épics et il dit les porcs épics, ce sont des porcs épics en hiver. Évidemment, comme c'est l'hiver, ils ont froid. Donc ils se rapprochent les uns des autres pour se réchauffer. Du coup, ils se piquent. Donc ils s'éloignent. Et du coup, ils ont froid. Donc ils se rapprochent et ils se piquent. Ils s'éloignent, ils ont froid. Et ainsi de suite. Et les porcs épics vivent en accordéon. Le problème, c'est que quand ils se réchauffent, ils se piquent. Ouais. Et quand ils ne se piquent plus, ils ont froid. Et or, nous en sommes là. Nous avons besoin naturellement de la compagnie d'autrui. Nous avons besoin de sa chaleur. Mais en même temps, on ne le supporte pas. Et il nous pique et il nous dérange. Et il nous indispose par ses mauvais goûts, par ses odeurs ou par ses opinions politiques. De sorte que il faut trouver, dit Schopenhauer, et c'est ça qui est formidable avec Schopenhauer, c'est que il est essentiel de trouver ce qu'on appelle la juste distance entre les individus.
Et c'est de la politesse, ça.
Ni trop près, ni trop loin. Et c'est ce qu'il appelle la politesse.
C'est ce qu'il appelle
la politesse. Ce qui donne ses lettres de noblesse à la politesse. La politesse, c'est pas juste le truc qui fait que c'est plus agréable de passer la journée, si vous voulez. Non, la politesse, c'est ce qui permet vraiment, plus encore que la loi aux yeux de Schopenhauer, aux hommes de vivre ensemble.
La confiance aussi. Vous posez cette question sur le mensonge. Et la vérité. Faut-il toujours dire la vérité? Vous écrivez « La prudence commande de ne jamais faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas mentir ou pire, qui refuse de le faire ».
Oui, c'est une vieille querelle du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, entre Kant et Benjamin Constant, d'un prétendu droit de mentir. Où Constant refuse de penser comme Kant qu'il faut toujours dire la vérité en faisant valoir qu'il y a des moments dans la vie où les gens qui ont droit à la vérité sont les gens qui sont capables de l'entendre. Et donc il apporte comme ça un bémol. Et c'est vrai que de ce point de vue, Constant a absolument raison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours dire la vérité quand on cache des juifs chez soi et que la police française vient nous demander si c'est le cas?
Ça, c'est autre chose, c'est l'extrême.
C'est pas autre chose, c'est la même chose, c'est toujours la même chose.
On peut mentir par omission aussi, ça va.
Oui, mentir par omission, oui, si vous voulez. Oui.
Ou s'arranger avec la vérité.
Mais par exemple, alors, prenons un exemple plus concret. Si un camarade vous donne un manuscrit sur lequel il a travaillé pendant 20 ans, que c'est le texte de sa vie et que le truc est nul, qu'il s'en remet à votre goût, vous me prendrez des gants avant de lui dire ce qu'il en est, peut-être. Peut-être pas vous, remarquez. Oui.
Non, parce que déformation professionnelle.
Oui, peut-être pas vous. L'idée étant que quand quelqu'un dit la vérité, il se ment. Quand quelqu'un dit toujours la vérité, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même en disant qu'il ne ment jamais. Ouais. Il se raconte à lui-même l'histoire fausse du type qui ne ment jamais. De sorte qu'on ne peut jamais faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas mentir. Il n'est pas fiable.
Bon, l'amour ainsi est soumis à la question de la vérité nécessaire. Faut-il avouer un adultère, par exemple, et vous expliquer aux ados que ça dépend de la méthode?
Non, enfin, disons que je prends l'exemple du type qui dit à madame, dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ou du type qui dit à monsieur, tout est possible, mon amour, pardonne-moi, je t'ai trompé, je suis un misérable, mais entre nous, pas de mensonge, etc. Et il est vrai que quand ça arrive une fois, souvent, on surmonte cet épisode et souvent ça donne un concours de violon où madame répond, madame ou monsieur, donc, mon amour, c'est pas grave, ça va, on va sortir renforcé de cette histoire, etc., etc. Et c'est un duo de bonnes intentions. Or, si les deux individus se disaient vraiment la vérité au lieu de se raconter qu'ils se disent la vérité, le cocufieur dirait à la cocufiée, ou inversement, écoute chérie, franchement, la culpabilité, c'est trop lourd, donc sois sympa, prends-en la moitié parce que j'ai pas la force de porter ça. Quant à l'autre, elle dirait, c'est pas parce que je te pardonne que je te pardonne, c'est juste pour ajouter à ta misère le spectacle de ma hauteur. Démerde-toi avec ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a souvent derrière deux personnes qui prétendent se dire toute la vérité, des tas de mensonges à l'œuvre, hein, et c'est tout ce que je raconte.
C'est compliqué, Raphaël. Hein. Moi, je sais plus. Hein. On confie ou pas? On dit la vérité ou pas?
On fait ce qu'on peut dans la vie.
Qu'est-ce que vous faites?
Encore faut-il le faire.
Vous dites la vérité ou pas?
Ça dépend.
À cet instant,
je vous dis la vérité quand je dis que ça dépend. Ouais.
Allez, les libraires avec Déborah Damblon qui est en Belgique. Elle a dû adorer cet ouvrage.
Bah oui, le suspense n'était pas grand, hein, Emmanuel. Oui, j'ai adoré, c'est tout ce que j'aime. Alors, monsieur Enthoven, j'ai envie de vous dire merci.
Mais de rien, s'il vous plaît.
De nous rappeler qu'une minute, ça peut être le temps d'une histoire, le temps d'un paradoxe, le temps d'apprendre, le temps de grandir, le temps de se faire du bien, de se rencontrer. Enfin bon, je peux continuer comme ça à l'infini. Je vais m'arrêter, sinon Emmanuel va se fâcher. Alors merci de nous aider à penser en famille, alors que nous en avons souvent tellement besoin. Et trouver des livres comme celui-ci, je trouve que ça rend le monde plus beau. Ils sont essentiels.
Magnifique.
Merci. Je ne veux rien ajouter après cela.
Il n'y a rien à rajouter.
Rien. Je veux me taire. D'ailleurs, on va arrêter l'émission là.
Oui, parce qu'on est en retard. Donc, on peut se dépêcher.
Merci infiniment de ces bonnes paroles. J'espère un jour les mériter.
Voilà, Claire Renaud va être beaucoup plus concise, n'est-ce pas, Claire, en Suisse?
Eh oui. Moi, j'ai trouvé surtout que c'est un livre qu'il faudrait laisser traîner un peu partout et en tout cas dans les salles d'attente. Il nous éclaire, il nous amuse, il nous incite surtout à réfléchir et penser autrement. Alors, en période de doute ou pour s'amuser, c'est le livre idéal, le livre remède, qu'il faut laisser glisser dans les mains de tous. Et puis, j'ai juste une petite question, c'est qu'il faudra peut-être songer à faire aussi un livre pour 8-10 ans, parce qu'il y a certains de vos textes que j'ai dû lire plusieurs fois pour essayer de les comprendre.
Vous avez raison.
Non, mais je plaisante un peu, mais c'est vrai.
Mais rien n'est plus difficile que de parler. Alors, c'est drôle que vous me disiez ça. J'ai donné un cours il n'y a pas longtemps sur la vie de Socrate à des enfants de 9 ans. Et j'étais très surpris de leur capacité d'écoute, mais aussi du fait que je les tenais à partir du moment où je leur racontais une histoire. Et là, il y a vraiment une pédagogie par la narration que je tiens pas encore.
Vous alertez sur les faux amis qui jalonnent notre vie. Ceux qui ne vous épargnent pas et ceux qui vous flattent. Vous dites que ce sont les pires.
Oui, c'est-à-dire je préfère encore les flatteurs, je crois. oui. Si vous voulez, le type qui vous dit, non mais attends, moi je suis ton ami, donc je peux te dire la vérité, ça part très très mal.
Ah bon?
Déjà, c'est un postulat tout à fait douteux. Je vois pas en quoi le fait d'être mon ami autoriserait quelqu'un à me dire la vérité.
On enlève tous les filtres, Raphaël.
Voilà, on enlève tous les filtres.
Je suis pas d'accord avec ça.
Le seul filtre qu'on n'enlève pas dans ces cas-là, c'est le filtre selon lequel, comment dire, on se ment à soi-même là encore quand on croit que l'amitié commande la franchise et que la franchise c'est de dire la vérité. En la circonstance, l'amitié commande la délicatesse et la délicatesse est de ne pas toujours dire la vérité à celui à qui on parle, en particulier
quand.
Donc on ment. Non. C'est pas Ben
si, donc la relation est faussée, Raphaël.
Non, c'est qu'il y a des tas de gens qui croient vous dire la vérité quand ils vous disent des trucs désagréables. Si c'est désagréable ce que je vous dis, c'est que c'est vrai. Or, ben, pardon, c'est ce postulat qui est douteux. Le grief, le reproche, n'est pas toujours un gage de vérité, c'est un gage d'antipathie. Ce que je veux dire en général, c'est que les gens qui passent leur journée à dénigrer ce que vous faites... Non, mais les gens qui passent leur journée à dénigrer ce que vous faites au nom du fait qu'ils sont vos amis ne méritent pas les amis qu'ils perdent.
Alors du coup, on en déduit qu'être souvent en désaccord avec un être aimé, ami ou autre, c'est salutaire, car c'est à cette condition qu'on se complète.
Oui.
Le désaccord.
Ah oui, tout à fait.
Ça peut générer la dispute, le désaccord.
Mais il faut l'éviter. Mais l'enjeu est de transformer la dispute en discussion. L'exemple que je donne là-dessus, c'est l'exemple de deux œnologues qui goûtent un vin. L'un des deux lui trouve un goût de fer, l'autre lui trouve un goût de cuir. Alors les gens qui voient ça sont étonnés ou se moquent d'eux. Et en réalité, une fois qu'on a fini le tonneau, on découvre au fond du tonneau une clé à lanière de cuir. C'est une histoire que Hume, le philosophe David Hume, a empruntée à Cervantes. Et en fait, c'est une histoire qui veut dire que quand deux personnes sont en désaccord, ça ne veut pas dire que l'une des deux détient la vérité, ça veut dire tout simplement qu'ils mettent la vérité en partage et qu'ils se complètent au lieu de s'opposer.
Vous évoquez aussi, Raphaël Antoven, la figure de Narcisse. On comprend que moins on se connaît, mieux on se porte, selon d'ailleurs le philosophe Clément Rosset. Et pourtant, les philosophes donnent l'image de personnes qui semblent beaucoup s'aimer. Vous, Raphaël, vous qui prenez soin de vous, vous qui faites partie de ces philosophes modernes, vous êtes un bel homme, tout le monde le dit.
Mais c'est pas pour ça que je prends soin de moi.
Ça, c'est un autre débat.
Voilà.
Vous qui faites partie de ces philosophes modernes, élégants, qui semblent bien apprécier leur propre personne. Il y a ce paradoxe, je trouve, chez les philosophes, l'égocentrisme. Comme si l'égocentrisme permettait de transmettre une réflexion sur l'abnégation et sur l'altruisme, comme si les contraires se complétaient.
Non, je crois pas du tout. Je pense que l'égocentrisme est à tous égards, comme le narcissisme, comme la conscience de soi, la conscience aiguë de soi, à tous égards l'ennemi de la réflexion, comme de la vie d'ailleurs.
Donc vous n'êtes pas égocentrique.
Je le suis autant qu'un autre, si vous voulez, mais je peux moi-même mesurer les méfaits de l'égocentrisme à tous les instants perdus que j'ai dû passer devant un miroir, si vous voulez, comme tout le monde. En revanche, ce qui est intéressant avec le narcissisme, c'est que Narcisse préfère son reflet à lui-même. Or, en général, on dit du narcissisme que c'est de l'amour de soi. Ben non, c'est de la haine de soi. Quand on préfère son image à soi-même, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc, l'erreur est de croire que le narcissisme est un amour de soi, c'est un amour propre.
Les contraires se complètent, c'est ça ?
Ça me semble un peu hâtif comme résumé, mais on peut le dire aussi comme ça.
Comme vous voulez. Hein.
C'est si vous n'êtes pas d'accord.
Non, bah non, c'est vous. C'est vous le philosophe.
Hein. Moi, je ne décide rien. Moi, je n'ai que des doutes, vous savez.
Oui, c'est vrai. Allez, les autres libraires. Josiane Letourneau pour le Canada ou bien Thomas Auxerre ? Vous préférez qui, Raphaël ?
Josiane.
La France, là, Josiane. Allez, Josiane Letourneau, Canada.
J'ai trouvé que ce livre était un véritable bijou, l'exemple parfait de ce que j'aime proposer. C'est une œuvre foisonnante, intelligente, ludique, ambitieuse, qui stimule l'imagination et offre une opportunité rare d'aborder la philosophie dans un espace fantaisiste qui ne manque pas de profondeur. J'ai adoré le lire et je sais que j'y retournerai de temps en temps pour le simple plaisir de m'immerger à nouveau.
Les libraires ont tout adoré.
On va se taire. C'est pas possible. Vous en parlez trop bien.
C'est affligeant. C'est consensuel.
Vous savez, mon vieux maître Lucien Gerfagnon disait, on n'a pas le droit, Antoven, d'emmerder un lecteur qui nous a rien fait. Je trouve que c'est un principe de civilité élémentaire. Vous pouvez tout dire à condition de pas être chiant, en fait. Et je trouve que c'est important. Pardon.
Mais vous n'êtes jamais chiant, hein, Raphaël. C'est vrai.
Je vous remercie.
Non, mais vraiment. Thomas Auxerre pour la France.
Moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Vos philominutes inspirantes et inspirées conviennent aux ados, mais aussi aux plus vieux. Puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut les lire au compte-gouttes ou aussi en rafale. Et puis les illustrations aussi, je trouve que ça amène une petite perspective supplémentaire. Ça, c'est bienvenu. Donc moi, j'ai trouvé ça super.
Un mot de l'illustration, puisque vous avez la gentillesse d'en parler. Chen a ce talent de ne jamais recopier ce qu'on dit, mais de le décaler toujours. Donc le dessin ajoute une dimension supplémentaire. Et en fait, le texte plus le dessin forment un ensemble qui va au-delà du texte.
On va terminer avec l'une de vos citations, parce que c'est pour les adolescents, et vous évoquez un sujet très important, le suicide. À deux reprises, vous l'abordez avec beaucoup de subtilité, et vous écrivez LA phrase anti-suicide. Vous dites « La vie est absurde, mais il est encore plus absurde de se tuer parce qu'on a peur de mourir. » Et plus tard, vous dites aussi « Combien d'individus seraient dissuadés de se suicider si on leur rappelait qu'ils n'assisteront pas aux obsèques dont ils se plaisent à imaginer les détails ?»
Oui, c'est qu'en fait, j'imagine quelqu'un de très déprimé qui veut en finir et qui reçoit la visite d'un ange qui lui dit « Mais non, la vie est belle » ou d'un démon qui lui dit « Honnêtement, la vie n'a aucun sens. » Et je me demande qui le tire d'affaire. Et en réalité, évidemment, la vérité qui dérange est de meilleure compagnie et plus salutaire que l'illusion qui réconforte.
Merci. Merci beaucoup Raphaël Andoven.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Merci d'être revenu dans la librairie francophone Imaginée et parue à l'École des loisirs. À suivre les coups de gueule et les coups de cœur des libraires, j'espère des coups de gueule et un entretien reportage intense sur l'île de la Réunion. On écoute le nouveau titre de la chanteuse Pomme.
Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout, si tu voulais me voir, moi je préfère le noir, je ne vais pas sortir, je ne vais pas me découvrir des failles.
C'était la chanteuse Pomme avec Je ne sais pas danser.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Première partie, on commence avec un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud.
Oui. Alors moi, c'est les prix Nobel de littérature. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on récompense ? Est-ce qu'on récompense l'engagement littéraire ou l'engagement politique ? Dans l'idéal, j'aurais imaginé les deux. Or, dans le contexte actuel, géopolitique actuel, n'aurait-il pas été plus judicieux de le décerner, par exemple, à Asli Erdogan, qui se bat tout simplement pour la liberté de la parole, ou à Ngozi Adichie, qui est une féministe qui se bat pour les droits des femmes, plutôt qu'à Peter Handke, très controversé quant à ses positions sur la Serbie pendant la guerre en Bosnie, qui a en effet marqué une époque, certainement. Mais est-ce qu'il la marque toujours ? Je pose la question.
Oui, mais l'Académie Nobel a dit une phrase très juste, hein, en tout cas on aimerait les croire. Ceci est un prix littéraire, pas un prix politique. Voilà qui résume la situation. Merci pour votre avis en tout cas Claire. On va partir du côté de la France avec Thomas Auxerre dans le rayon des bandes dessinées, un gros coup de cœur.
Ah oui, un énorme coup de cœur Emmanuel pour Les Indes Fourbes, c'est aux éditions Delcourt. Alors c'est très simple, vous prenez la crème de la bande dessinée, c'est-à-dire Guarnido et Erol. Guarnido celui qui est l'auteur de la série Black Sad, Erol celui de la série de Cap et de Croc, et là vous plongez en plein siècle d'or espagnol et vous allez suivre les aventures du vagabond le plus fourbe et le plus espiègle qui soit. Franchement Emmanuel, il y a des dessins magnifique, il y a un scénario en béton, c'est franchement la bande dessinée de l'année. On est au mois d'octobre, mais je vous le dis déjà, c'est la bande dessinée de l'année.
Elle est magnifique en tout cas, c'est vrai.
Génial.
Les Indes Fourbes aux éditions Delcourt, merci Thomas. Et on part à la Réunion, on y retourne plutôt, puisque nous y étions la semaine dernière pour cette émission spéciale que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet. Voici une rencontre que nous avons enregistrée sur place avec le penseur Patrick Singaigny, proche d'Aimé Césaire et d'Edgar Morin, qui porte une réflexion sur l'identité.
Ôte la Réunion, ôte la manque à moi. Ôte la Réunion, ôte moi l'avais besoin.
Voilà, dans les rues de Saint-Pierre, on arrive du côté de la médiathèque, lieu emblématique, lieu culturel, l'un des lieux culturels de la Réunion. Bonjour Patrick Singaigny.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Alors on vous a demandé de choisir un lieu. Un lieu pour faire votre portrait, pour parler de métissage, d'ouverture sur le monde, de tolérance et de cet emblème qu'est la Réunion dans ce domaine-là. Et vous avez choisi un arbre.
Oui, un arbre.
Qui est dans la médiathèque, enfin à côté.
Oui, alors c'est heureux parce que cet arbre en plus, il s'est très bien développé, contrairement à ceux qu'on peut rencontrer dans l'île. Et cet arbre, tellement majestueux, c'est un banyan que nous commençons à entrepercevoir.
Ah oui, oh là là, avec un tronc incroyable.
Alors justement, c'est là où on se pose des questions, car effectivement, on ne voit pas vraiment le tronc.
Et non, les branches vont vers le sol.
Exactement, et deviennent des troncs. Les branches deviennent des troncs, et quand cet arbre qui est par nature prolifère, eh bien, on ne voit plus le tronc principal. Et on dit même que l'arbre le plus représentatif de la planète a perdu son tronc principal. Et pour moi, c'est le meilleur être qu'on puisse désigner pour définir ce qui se trame ici à La Réunion.
Alors, il s'enracine dans la terre. C'est très impressionnant, je n'ai jamais vu ça. C'est qu'effectivement, il y a un tronc central. Autour de ce tronc central, il y a comme des lianes, mais très épaisses, très larges, qui pourraient être des troncs d'ailleurs d'arbres entre guillemets normaux, qui plongent vers la terre. Oui. Sauf que les branches qui s'étendent comme ça vers le ciel ont elles aussi des ramifications avec d'autres branches, d'autres troncs qui plongent vers la terre aussi.
Oui, et du coup, on ne sait plus très bien ce qui est du domaine du tronc et de la branche. Et c'était le retour permanent, qui commence certes par un début, mais qu'on ne voit plus très bien.
Alors c'est des lianes au départ, hein ?
Oui, ce sont des lianes.
Qui s'intensifient, qui grossissent.
Exactement, et qui deviennent troncs, comme ici, vous voyez, au tout premier plan. On ne sait plus ce qui est du domaine de l'origine et du domaine de la racine. On peut tout mettre au pluriel d'ailleurs. C'est le premier questionnement qui m'amène à être un essayiste. C'est le premier questionnement qui m'amène vers Aimé Césaire. C'était en 2001. C'est le début de toute ma réflexion qui commence avec Aimé Césaire, qui s'enchevêtre avec la rencontre avec Edgar Morin et qui continue maintenant avec une pensée. Cette pensée qui s'appelle la banyalisation avec un Y, puisque j'en ai parlé à Edgar Morin en 2015, lui m'avait dit surtout mets bien le Y, sinon on va voir banalisation, donc c'est très regrettable.
Bon, alors vous avez choisi ce lieu, vous êtes né ici à Saint-Pierre, à La Réunion, et en 2000 vous partez en Martinique. Et vous dites que c'est en Martinique finalement que vous réalisez, que vous ressentez votre identité réunionnaise.
C'est exact.
Et alors, c'est possible ça ?
Alors c'est en situation d'extériorité qu'effectivement je peux enfin voir La Réunion. Il fallait être dans un lieu cousin à celui-là pour pouvoir
comprendre.
Et pour comprendre.
Qu'est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on comprend qu'être créole finalement c'est un mélange de toutes ces cultures du monde et qu'on traverse l'océan Indien, l'océan Atlantique, si on passe par l'Europe ou par l'Afrique et qu'on arrive aux Antilles, finalement, on a ce rassemblement de cultures qu'on emmène, qu'on emporte sur son voyage.
C'est comme ça que j'avais vu les choses. Et puis après, tout de suite, tout ça, c'est, déconstruit. Et c'est avec Aimé Césaire, je me suis rendu compte qu'il y avait, une source, une origine. Il y avait un départ, un point de départ. Et le point de départ n'était peut-être pas la plantation, mais peut-être l'ailleurs. L'ailleurs, eh bien, finalement, c'est... Pour revenir au banyan, c'était plutôt un banyan qui traverse les océans et dont on ne sait plus très bien où sont les origines, où sont les racines.
Et vous avez fait le pont entre Aimé Césaire et Edgar Morin. Vous le dites ça, vous êtes inspiré de la pensée de Césaire autour de la créolité, de l'identité créole qui intègre évidemment l'histoire de la France avec les colons, avec les esclaves. Et en même temps, Edgar Morin qui est plus lui dans un constructivisme, qui part du principe que la France c'est un rassemblement, un assemblement de ces cultures-là.
Oui, effectivement. Et en plus, Edgar Morin se réfère sur cette question à son ami Édouard Glissant, qui est maintenant disparu, et qui, lui, s'est focalisé sur le processus de créolisation. J'ai pu échanger avec Césaire sur cette question parce que, pour lui, il n'y avait pas que la créolité. Car si on parle de créolité, il faut aussi parler de ce qu'il y a avant. Et la créolité, le processus de créolisation, rencontre la complexité, certes, mais doit être complété immédiatement par la recherche des origines.
On parlait de ce côté-là, Patrick Saint-Gaigny, parce que face à cet arbre, il faut décrire quand même le lieu, on a une scène en pierre, on a une vingtaine de rangées de chaises, on imagine très bien des spectacles de théâtre ou de musique sur cette scène organisée par la médiathèque. Au fond, il y a une statue, et quand on est au fond, on a une vue globale de votre arbre magnifique avec ses troncs, je le rappelle, qui plongent, enfin ses branches qui plongent vers la terre et qui font des troncs annexes, des ramifications. Alors avec vos livres sur Aimé Césaire, avec Edgar Morin aussi, au lendemain de l'attentat, des attentats de 2015 après Charlie Hebdo, vous avez porté cette réflexion sur la France, sur le multiculturalisme. Vous vous êtes interrogé aussi sur la façon dont on est français aujourd'hui. Et ça, c'est valable pour toutes les cultures, au final. Que l'on soit canadien, suisse, belge, belge aussi, avec les différences des communautés. La France, c'est ça aussi. Il ne faut pas être forcément de culture française pour être français. C'est ça que vous dites?
Exactement. C'est un constat. C'est la France du 21e siècle, celle qu'on ne voit pas véritablement à travers les médias. Et même à travers le cinéma, on voit pas suffisamment ce que là-bas on appelle la diversité. En réalité, les Canadiens nous montrent le chemin. Ils l'ont inclus dans la Constitution, dans le respect des lois. Il faut effectivement intégrer la diversité parce que tout simplement c'est un processus qui permet à la fois d'enrichir et de revenir vers l'origine. Effectivement.
Patrick Saint-Gagny, on va sortir de cette médiathèque, on va aller voir un autre lieu avec une fameuse mairie.
Oui, l'ancien
un grand jardin.
Avec un grand jardin juste en face. Et d'ailleurs, il y a même un monument aux morts avec un superbe poilu.
On va aller voir cela. C'est la librairie francophone ici à Saint-Pierre, à La Réunion, avec Patrick Saint-Gagny.
Sa tambour y bat dans mon tête, puis mon nation y sa mort, j'en fais. La nuit, le jour, l'Afrique a rien. Poula, la vie, pour casse la chaîne. Tout rond devant, tout rond d'hier. Depuis midi, depuis 1 heure.
Bon voilà, on arrive devant le bâtiment de la mairie, de l'hôtel de ville actuel.
L'ancien hôtel de ville, oui, exactement.
C'est vrai que c'est un vieux bâtiment, l'aspect colonial. Hein.
Exactement, mais c'est un bâtiment colonial qui a été restitué par le roi, si je me souviens bien, à la municipalité au XVIIIe siècle. C'était un endroit où on entreposait pas mal de choses pour le roi, pour la Compagnie des Indes.
Et qui est resté intact, hein, d'ailleurs.
Resté intact.
Là, il y a encore
d'une grande beauté.
Des peintures un peu décrépies, des volets d'un vert très pâle, un jaune ocre très pâle, une façade peinte blanche à l'origine et puis un toit très abîmé.
Oui, ah oui, ça, très abîmé, oui. C'est les marques du temps. Alors, il me semble qu'on disait ce bâtiment qu'il n'était pas très beau parce que pas très décoré, etc. Mais enfin, aujourd'hui, avec... nos yeux d'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on voit. Il y a la patine du temps, bien sûr, mais il y a aussi le fait que bon, c'est imposant, les murs sont épais, comme ils se devaient à l'époque.
Alors en face, il y a un jardin qui est assez fréquenté, d'ailleurs,
oui,
avec une fontaine classique. Alors le modèle de La Réunion, Patrick Saint-Gagny, c'est un modèle exceptionnel, très particulier. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, dans l'Hexagone, il y a une laïcité qui vise à la tolérance. Alors qu'à La Réunion, la tolérance est de fait.
Oui, de fait. C'est-à-dire qu'au lieu de parler du vivre ensemble, ici, on pourrait parler du bien vivre ensemble. Bien vivre, un trait d'union après bien. Parce que tout simplement, il y a cette chose que les Réunionnais ont construite, disons, il n'y a pas si longtemps finalement. C'était à la fin des années 1930. Et un petit peu avant le commencement de la guerre, et même pendant la guerre, il y a eu ce que moi j'appelle la réunionisation, c'est-à-dire que les gens qui étaient là, issus du peuplement historique, qui ne recevaient plus rien des bateaux, plus de bateaux venaient, ont connu la faim, la maladie, et là il n'était plus question de montrer les différences, il fallait faire bloc, et c'est à ce moment-là que la réunionité est née.
C'est ça la force de la société réunionnaise.
Oui, et du coup, les différences religieuses en particulier...
Oui, notamment, oui.
Tout ça s'est amalgamé dans l'effort collectif et ça a donné ce que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, on peut parler de la religion des uns des autres, mais pas de façon ostensible et surtout en faisant acte de respect immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne vient à personne de discuter ou de critiquer ou de faire une analyse critique de telle ou telle pratique, de tel ou tel culte. C'est pas qu'on ne parle pas, c'est que de fait, on tolère. De fait, on va vers la tolérance.
On arrive devant une statue, Patrick Saint-Gagny, avec un poilu, une statue qui a une représentation très forte pour vous. Pour quelle raison?
Alors, d'ailleurs, j'en parle aussi dans La France, une et culturelle. C'est le poids écrasant, l'apport déterminant des tirailleurs sénégalais. Alors, les tirailleurs sénégalais n'étaient pas seulement sénégalais. Il y avait là-dedans, évidemment, tous les...
Beaucoup d'Antillais,
beaucoup de Réunionnais, sans eux. La France n'aurait pas, par exemple, n'aurait pas pu être un pays vainqueur sans sans eux, il n'y aurait pas eu cette place à l'ONU. Hein. Je crois qu'on a sous-estimé, on continue à sous-estimer le rôle de ceux qu'on appelait les coloniaux à l'époque. Et la France d'aujourd'hui, en fait, elle a été érigée grâce en grande partie à ces gens. Songez par exemple pour Eboué, qui était l'homme du général de Gaulle au Tchad. C'est lui qui fait en sorte qu'une armée de forces françaises libres puisse être perçue comme telle. Donc c'est grâce à des gens comme ça que la France est ce qu'elle est aujourd'hui.
Et on est dans un alignement quasi parfait, puisque derrière cette statue, il y a la fameuse fontaine dont on parlait tout à l'heure, avec la mairie sur la gauche. Juste en face, le jardin se poursuit et on perçoit la mer avec les bateaux et le port de Saint-Pierre qui est juste là-bas. Merci beaucoup Patrick Saint-Gaigny.
Je vous en prie, merci Emmanuel Carl.
Merci pour cette balade dans Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion. On va se diriger vers le front de mer.
Oui.
Merci Patrick, à très bientôt.
Je vous en prie, bonne continuation.
Merci. Et on quitte cette ambiance réunionnaise pour retrouver nos libraires, leur coup de gueule et leur coup de cœur. Deuxième partie. Et de la Réunion, on part à l'opposé quasiment au Canada avec vous, Josiane Letourneau, et un gros coup de cœur.
Oui, un coup de cœur pour le recueil de Vanessa Bell, De Rivière, publié à La Peuplade. Alors, parler du recueil de Vanessa Bell, c'est exiger la reconnaissance du corps féminin comme celle d'une rivière puissante, avec sa profondeur, sa vie intense et exigeante, sa force, ses courants. Les poèmes brefs de la poétesse débordent comme une rivière jaillit de son lit. Ils bouillonnent et nous traversons la surface des eaux avec eux. C'est beau, sobre, vivant et éloquent. Bref, c'est à lire en prenant tout son temps,
oui,
comme on s'abandonne au murmure des eaux.
Vous avez créé un poème, en fait, Josiane, c'est pas possible.
Ben oui, en même temps. Pourquoi pas?
Bon, c'est la poésie de Vanessa Bell, vous en faites des tonnes. Hein. Mais bon, soit. C'est joliment écrit, en tout cas. De Rivière, aux éditions La Peuplade. On finit avec un coup de gueule. Déborah Damblon, en Belgique, qui déchire tout.
Ben oui, qu'est-ce que je ferais pas pour vous faire plaisir, Emmanuel?
Oh,
même des coups de gueule.
Ouais. Allez-y, c'est quoi cette fois?
Je viens de remarquer un truc, mais qui m'affole un peu, parce qu'on a beau être au 21e siècle, eh bien, il y a des messieurs, mais des très très bons lecteurs qui viennent souvent, et quand ils nous demandent des conseils et qu'on leur propose des livres, en fait, ils vont systématiquement écarter ceux qui ont été écrits par des femmes.
Mais non.
Si, mais je vous jure.
Mais non.
Et le... Ouais. Et le pire, Emmanuel, c'est que je suis même pas sûre qu'ils en soient conscients. Alors, les gars, j'ai envie de vous lancer un petit défi. On disait, le prochain, il sera féminin ?
Ouais, incroyable. Ça arrive. Thomas Auxerre, pour la France, veut réagir.
Oui, c'est déjà
c'est
arrivé.
C'est vrai ?
Ouais, c'est déjà arrivé.
Incroyable,
ouais.
C'est n'importe quoi.
De moins en moins, mais c'est déjà arrivé.
Bon. Bon, merci de nous alerter, Déborah. Merci à vous.
Lanceuse d'alerte.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on termine avec une découverte musicale orientale signée Aziza Brahim.
I'm
Aziza Brahim avec Ada Gil, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Hélène Bizio avec Serge Viguier, la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France. Annick Chouin et Madeleine Tocher en Suisse. René Miquilz avec Valérie Le Put en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, Jean-Louis Fournier, François Bégodeau, l'auteur rwandaise Beata Umubyeyi-Meres et de la musique dans notre studio. Passez un bon week-end, une belle semaine. À bientôt. Salut.